Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 sur Luc Andiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Jean-François Barbieri. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Barbieri, nous vous recevons quasiment à chaque publication et c'est la quatrième que vous venez présenter, qui s'intitule « Le feu de la révélation ». On l'abordera. Et donc vous étiez déjà venu pour présenter « Tigre et loup »,« El Narcom Amauta » et « Pouliroti ». Ce quatrième ouvrage qui s'intitule « Le feu de la révélation », cela traite de quel sujet précisément ?
Alors, tout d'abord, je vous remercie pour votre nouvelle invitation qui me ravit, sans parler de crèche. Hein. Alors, pourquoi ce nouvel ouvrage est un roman, donc une pure fiction, toujours inspirée plus ou moins d'une certaine réalité. Alors, je suis parti de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Pour imaginer une enquête judiciaire, donc c'était un polar, un roman policier, pour imaginer une enquête policière qui me ferait peut-être découvrir l'auteur de l'incendie. Voilà.
C'est une pure fiction, donc. Hein. Pour le moment, est-ce qu'on a justement une vérité sur cette part d'incendie ? Il y a eu des pistes d'entreprises qui auraient peut-être, ou un employé aurait peut-être laissé une cigarette se consumer, ou alors aussi des défauts d'installation d'électricité dans la charpente de la cathédrale.
Alors, je suis comme vous, je suis l'actualité. Est-ce que nous en dit la presse par rapport au communiqué de la police judiciaire de Paris qui est chargée de l'enquête ? Effectivement, actuellement, les pistes privilégiées sont... La piste privilégiée est accidentelle. Alors, soit, effectivement, un mégot de cigarette laissé par un des ouvriers, ce en quoi je ne crois pas du tout, personnellement. Même si je ne suis pas un spécialiste des incendies. Et l'autre piste, ça serait un défaut technique, court-circuit, etc., qui aurait allumé l'incendie et qui, cet incendie se serait propagé à une vitesse assez importante pour des raisons X. Alors pour l'instant, d'après ce qu'on en sait, d'après ce que le public en sait et d'après ce que j'en sais, on en est là. Donc moi, j'ai essayé d'aller plus loin et j'ai trouvé une autre solution, on va dire. Mais c'est, comme je dis, ça reste une pure fiction. Ne me demandez pas, comme certains me l'ont déjà demandé, mais comment ça se fait que votre version, personne n'en a parlé dans la presse ? Ben oui, effectivement, parce que c'est une version imaginée. Alors, qui sait ? Le pur hasard fera peut-être... que ce que j'avance dans ce roman, peut-être un jour, on s'apercevra que c'est la réalité. Mais j'en sais rien du tout et je ne veux pas orienter du tout l'enquête. Pour l'écriture de ce livre, je ne me suis pas renseigné non plus auprès de mes collègues ou anciens collègues de la brigade criminelle de la PJ parisienne. Je ne les ai pas contactés, j'ai simplement suivi ce qui se disait dans la presse. Et puis après, j'ai fait travailler mon imagination.
Alors c'est une enquête qui est menée par un policier dessaisi de ce dossier au départ, accompagné d'une journaliste justement du Dauphiné, une petite journaliste, et donc tous les deux prospectent sur des pistes.
Alors la journaliste apparaît déjà dans le premier roman, Pouliroti. C'était une journaliste de Vennes, dans le Haut-Buëch, là, deux pas d'ici, dans les Hautes-Alpes. Prénommée Marie-Lou. Et donc, j'ai eu l'idée de continuer un peu ces histoires, on va dire. Et elle fait effectivement la connaissance par relation d'un enquêteur, d'un inspecteur, enfin ce qu'on appelait inspecteur à l'époque, donc lieutenant de police maintenant, d'un service parisien de la police judiciaire, et qui, sur peau surprise, n'est pas la brigade criminelle chargée de l'enquête sur l'incendie. Donc par divers rebondissements, elle tombe sur ce jeune homme qui lui fait part de ses doutes quant à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame et l'origine de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et ils décident ensemble de mener, on va dire, une contre-enquête et qui aboutira à de nouvelles conclusions un peu surprenantes.
Alors, pourquoi cet intérêt sur cet incendie de la cathédrale? Pourquoi ce sujet en particulier?
Alors, pour deux raisons. Lorsque l'incendie s'est déclaré, au printemps 2019, c'était un événement hors du commun, par le lieu. Hein, des incendies, il y en a 50 tous les ans, plus. Même, mais bon, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est quand même un lieu hors du commun. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est certain qu'il va y avoir des films, des livres écrits là-dessus. Alors, je ne me suis pas trompé, parce que le hasard a voulu que Jean-Jacques Hano sorte un film au mois de mars, dont j'ai plus le nom en tête, d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être... Enfin bon, ça me reviendra. Et le hasard a voulu que la sortie de ce film de Jean-Jacques Hano sur l'incendie, où il retrace simplement l'incendie, c'est-à-dire l'intervention des pompiers, ceci, cela. Et le hasard a voulu que je sorte mon livre à ce moment-là. Mais c'est un pur hasard. Alors en fait, je ne sais pas si c'est lui qui a copié sur moi ou moi sur lui, mais enfin, c'est un pur hasard. Alors ça, c'est une chose. Donc j'ai pensé que cet événement susciterait beaucoup d'écrits, écrits littéraires ou cinématographiques. Et puis, dans les romans que j'écris, donc c'est le deuxième depuis 2-3 ans, j'ai envie d'aborder des sujets de société, entre guillemets, qui me tiennent à cœur. Et le sujet du religieux en général me tient à cœur. Bon, je suis personnellement athée, fier de l'être, je le revendique. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à ce sujet, d'autant que j'ai eu une éducation religieuse, comme beaucoup de jeunes à notre époque. J'ai même été enfant de cœur. Et bon, après, la foi, je l'ai perdue au sortir de l'adolescence, quand j'ai commencé à réfléchir. J'ai toujours été intéressé par le phénomène religieux, parce que c'est un phénomène aussi culturel, important dans notre société et puis dans le monde entier. Et donc, je me suis dit, tiens, cet incendie de Notre-Dame de Paris, ça peut être l'occasion d'aborder le sujet des religions en général. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre.
Et donc, c'est un peu opéré comme une enquête qui me faisait penser, vous savez, sur l'histoire qu'il y avait eu avec l'assassinat de Yann Pia. Il y avait deux journalistes, dont un du Canard, qui avait rédigé un livre, qui s'est révélé d'ailleurs, qui a été rejeté d'ailleurs par la justice. Ils ont été condamnés pour fausse information, il me semble. Oui. C'était avec l'encornet, je ne sais plus quel autre animal ils utilisaient.
Ah oui, je me souviens. L'encornet, il y avait deux hommes politiques qui étaient mis en cause. L'encornet, alors il y avait l'encornet et l'autre, et il y avait ça correspondait notamment, je crois, à l'homme politique François Léotard, qui était à l'époque peut-être encore ministre des armées, sous peut-être un gouvernement Balladur, quelque chose comme ça. Et le second, je ne me souviens plus qui, mais enfin oui, c'était assez visé, même si je crois que les noms des ministres n'étaient pas cités.
Voilà, non, c'était justement utiliser des noms d'animaux de mer. Et d'ailleurs, il y avait un personnage qui a trompé justement les journalistes, je crois à mon souvenir, qui s'appelait Dédé la Sardine. Et c'était quelqu'un qui était un peu dans le milieu et qui avait les oreilles du milieu. Donc il avait mal informé ou peut-être intentionnellement leurré les journalistes. Et ce personnage, ça m'a fait penser à ce personnage que vous avez utilisé aussi. Je crois que c'est Dédé, il me semble, je ne me rappelle plus, vers le début de l'ouvrage.
attendez.
C'est la journaliste qui va le trouver. Il est à la retraite sur une île.
Non, oui, en fait, c'est le. Ah oui, oui, c'est un ancien. Dans le livre, c'est un ancien policier de la brigade criminelle qui a débuté l'enquête à l'époque où il était en fonction et qui, étant à la retraite, a quelques regrets et sur l'enquête qui n'est toujours pas sortie. Donc, elle n'est toujours pas sortie à l'heure actuelle. Et qui fait part de ses états d'humeur, de ses pensées à la journaliste et qui a un gros doute sur le devenir de l'enquête et les conclusions à venir, effectivement. Non, mais bon, je le précise encore, c'est de la pure fiction.
Oui, mais est-ce que vous utilisez un peu des faits qui ont existé réellement et dont vous vous inspirez pour les amener dans cet ouvrage ?
Souvent, j'utilise souvent des faits qui ont existé, mais là, en l'occurrence, par rapport à cet ancien chef de groupe de la brigade criminelle, là, je n'ai pas fait de rapport avec l'histoire de Lang Cornet sur l'affaire Yann Pia. Mais enfin, vous l'avez trouvé, vous avez peut-être une meilleure mémoire que moi quant à l'actualité judiciaire de ces 20 dernières années, 20 ou 30 dernières années même.
Et puis, il y a aussi l'abord, puisqu'on aborde un peu les ordres religieux autour de cet événement. Il y a aussi la pédophilie qui est mentionnée durant l'enquête. Et c'est aussi, semble-t-il, une des clés de cet incendie.
Alors, effectivement, dans l'histoire, j'insère une histoire de pédophilie. Donc, il se passe dans l'Église catholique de nos jours. Bon, je fais pas preuve d'originalité. C'est malheureusement un fait avéré dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'au départ du livre, je partais pas sur cette idée. Bon, vous ne savez pas. Je sais pas. Enfin, chacun a sa façon d'écrire. J'avais un scénario global dans la tête. Mais au fur et à mesure de l'écriture, ce scénario, il évolue un peu. Et au départ, je n'avais pas idée de mettre une histoire de pédophilie au cœur de l'énigme. Et puis, à l'écriture, ça m'est apparu comme une évidence que pour l'intrigue, pour que l'histoire se tienne, pour qu'il y ait un certain suspense, tout ça, il m'est apparu que cette histoire de pédophilie dans l'église était la bienvenue. Et très rapidement, je l'ai insérée. Voilà.
Il y a notamment quelques digressions sur ce sujet par rapport à des personnalités connues. Voilà. Pourquoi c'est ce rappel, d'ailleurs, dans cette histoire ?
Alors bon, ça reste des discussions entre personnages fictifs. Hein. Alors chacun y va de son opinion. C'est ça l'intérêt aussi du roman, c'est que ce sont les personnages qui parlent. Ce n'est pas moi, même si parfois il peut y avoir certaines de mes idées qui apparaissent, mais je ne revendique pas... Enfin, je veux dire, la totalité du livre ne reflète pas mes idées complètement. Volontairement, parfois, j'exagère le propos par souci polémique pour l'intrigue de l'histoire et tout. Alors effectivement, quand on parle de pédophilie, dans l'Église ou dans la société en général, on ne peut pas occulter certaines personnes célèbres, que ce soit des ecclésiastiques ou que ce soit des politiques ou autres, ou des artistes qui ont eu un mail à partir avec la justice ou qui s'en sont sortis grâce à la prescription, avec des histoires de pédophilie. Donc effectivement, je c'est un peu rappelé à l'occasion. Ça ne veut pas dire que ces gens-là le sont, vu que s'ils n'ont pas été condamnés, on ne peut pas les accuser. Mais enfin, ça reste des discussions, on pourrait dire, parfois de comptoir entre certains personnages.
Le livre débute avec de longues descriptions de quartiers, d'endroits, de Paris. Vous les avez vus vous-même ?
Alors effectivement, lorsque j'écris, donc c'est le deuxième livre, et là j'en entame un troisième, j'aime bien décrire des lieux que j'ai connus. Donc ça me permet de ne pas faire trop d'erreurs et de faire passer ce que j'ai ressenti en décrivant ces lieux. Alors pour Paris, notamment le square Saint-Jacques qui se trouve au pied de la tour Saint-Jacques, à deux pas de la place du Châtelet, dans le Paris Centre. J'ai travaillé à proximité pendant des années, donc je le connais bien. Bon, je connais bien également la cathédrale Notre-Dame, qui n'était pas loin. Je connais également les quais du canal Saint-Martin, parce que j'y ai un peu séjourné aussi. Donc je connais un peu Paris. Donc c'est ce que je décris. Mais même sur les autres endroits que je décris au fil du livre, vu que l'enquête amène la journaliste à pas faire un tour de France, mais à se balader un peu dans la France profonde. Alors, il y a une scène qui se passe à l'île d'Oléron. Effectivement, je connais bien l'île d'Oléron, vu que mes parents, à l'époque, y avaient un petit terrain. Donc, j'y ai passé quelques années en vacances. De même, le fin fond du Jura, où j'avais un aïeul du côté de mon ex-épouse, qui habitait au fin fond du Jura. Donc, ce sont des villages, des hameaux, des lieux que je connais bien. Et j'aime à la fois parler de ces lieux que j'ai aimés, et puis c'est un petit clin d'œil à certains de mes lecteurs qui sont de mes amis et qui reconnaîtront les lieux qu'ils ont connus avec moi. Alors je l'ai fait pour le premier livre, vu que ça, le premier livre se passe dans la région où je demeure, dans le Haut-Buëche. Ce livre-là, donc, ça se passe un peu à Paris, un peu en Provence, et ça se termine en Haute-Provence. En un lieu, une abbaye, l'abbaye de Ganagobi, que je connais aussi parce que j'y suis allé en visite et j'avais trouvé le lieu très sympathique, très charmant. Et je fais pareil pour le prochain livre que je débute là, où je vais parler d'endroits que je connais. Et si je ne les connais pas, je vais me déplacer sur les lieux pour les visualiser, bien m'en imprégner, et pas simplement regarder sur Internet avec Google Maps ou autre pour voir comment c'est fait. Je vais aller sur place pour m'imprégner du lieu, pour être au plus près de la réalité. Ces romans sont de la fiction, mais j'aime bien que ça soit proche d'une certaine réalité.
Une réalité que vous abordez au plus près quand même, entre ces lieux, et puis quelques faits de réels, d'actualité. Et puis vos personnages, comment les amenez-vous dans leur psychologie? Comment sont-ils créés par vous-même?
Alors ça c'est un peu plus compliqué, je veux dire... Pour ce deuxième roman, j'ai décidé de reprendre au moins un personnage ou deux personnages, mais surtout un, la journaliste qui figurait dans le premier. Donc peut-être je vais en faire plus ou moins mon héroïne sur les romans à venir. Mais les autres personnages, c'est un peu au fil de l'écriture. Alors il y a des personnages qui me sont inspirés de la réalité. Dans le premier livre, qui revient sur le second, tout début de chapitre, le fameux préfet Aguilcat est un personnage réel que j'ai connu, donc j'ai transformé son nom. Je n'ai pas du tout transformé ses traits de caractère. Donc je me suis inspiré de lui. Bon, la fameuse journaliste Marie-Lou, là, effectivement, là, elle est purement inventée, mais je m'inspire quand même tout de même de quelqu'un que je connais, même vaguement. Après, dans ce livre, le policier qui intervient et qui va faire la contre-enquête, entre guillemets, avec Marie-Lou, c'est une invention de ma part. Après, je peux très bien m'identifier ou identifier quelqu'un que j'ai connu à travers lui. Donc, je veux dire, les personnages, ils arrivent au fur et à mesure de l'écriture, mais j'essaye toujours d'avoir une référence sur quelqu'un que j'ai connu ou que je connais.
Est-ce que vous avez déjà un sujet pour l'ouvrage à venir dans cette suite ?
Oui, j'ai un sujet qui sera... Oui, peut-être une suite, vu que la fameuse... journaliste Marie-Lou réapparaîtra dans le prochain. Mais j'en suis qu'au début de l'écriture. Hein. Donc on va dire que j'ai le scénario global en tête. Ça se passera de nouveau dans les Alpes de Haute-Provence et sur Marseille. Je vais vous dire en scoop, dans un milieu écolo-féministe, on va dire. Hein, c'est à la mode. Donc ce sera de nouveau un polar. Mais pour l'instant, je n'ai pas le titre, j'en suis qu'à l'écriture des tout premiers chapitres. Donc, je veux dire, il faudra encore attendre une bonne année avant que tout ça avance.
Ces scénarios que vous avez en tête, vous les construisez quand même en tirant quelques faits divers, j'imagine, comme beaucoup d'auteurs font, hein, oui. S'inspirer de la réalité pour la repositionner dans un autre contexte. Ce désir de partager justement ces faits divers, pour vous, c'est nécessaire. Et quelle est cette démarche auprès du lecteur pour ça ?
Disons que j'ai l'impression, et on me l'a fait remarquer effectivement, ce qui n'est pas faux, que j'écris un peu des romans, on pourrait dire entre guillemets, engagés. C'est-à-dire, effectivement, j'aborde un sujet, donc dans Poulet rôti, c'était l'état de la police aujourd'hui, telle que je la connais par rapport à celle que j'ai connue il y a quelques années, où j'étais moi-même ancien policier. Là, dans Le feu de la révélation, j'aborde le sujet de la religion ou des religions en général. Dans le prochain, ça sera les phénomènes de l'écologie, du féminisme, du néo-féminisme tel qu'il est aujourd'hui, ou tel que je le perçois aujourd'hui, hein. Effectivement, j'ai pas un message à délivrer, mais disons que c'est une façon de m'exprimer sur un certain sujet. Mais je précise encore que tout ce qui est écrit n'est pas le plus profond de ma pensée. Je le précise, c'est une fiction, j'exagère volontairement certains aspects pour créer la polémique dans le livre. Donc il ne faut pas me reprocher en disant « Vous avez écrit ça, ça veut dire que vous pensez ça ». Non, ce n'est pas ça. Certaines de mes idées transparaissent dans mes écrits. Alors, les gens qui me connaissent intimement pourront dire « Oui, là, c'est tout à fait ta pensée ». Mais je veux dire, 100% de ce que j'écris n'est pas ma pensée. Il y a certaines exagérations volontaires et, comme je dis, c'est une fiction. Voilà.
Vous sortirez peut-être un jour de la fiction et de rédiger quelque chose qui soit au plus près de vous-même.
Alors, ça a été fait, je vais dire, d'une certaine façon.
On peut parler des deux premiers ouvrages, voilà. Mais ça, c'est dans un cadre professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives, d'autres chemins à explorer pour vous ?
Pour l'instant, non. J'écris deux premiers ouvrages qui sont le premier, Tigre et loup, sur ma carrière de policier en investigation, principalement à Brigade des stupéfiants à Marseille. Là, c'est purement professionnel, effectivement. Un second ouvrage qui est une analyse géopolitique sur la période que j'ai connue et vécue en Bolivie, en Amérique du Sud, entre 2009 et 2013. Où là, j'analyse le phénomène narcotrafic, feuilles de coca, démocratie en Bolivie. Donc là, c'est véritablement ce que j'ai vécu, et je le raconte et je l'analyse. Après, je me vois pas, pour l'instant, écrire quelque chose sur un sujet, faire un essai sur un sujet pour analyser, dire ce que je pense. J'ai eu cette tentation lorsque j'ai débuté, avant que je débute le livre Poulet rôti, parce qu'effectivement, à l'époque, donc il y a 2-3 ans de ça, je voulais écrire quelque chose sur la police d'aujourd'hui, on va dire, telle que je l'aperçois, et telle j'estime qu'elle a changé négativement par rapport à ce que j'ai connu. Et je m'étais dit, si je fais un essai géopolitique sur la police, déjà, ça sera un essai de plus, parce qu'il y a 50 000 personnes qui écrivent là-dessus, des journalistes très compétents, des chercheurs, que ce soit au CNRS ou autre. Donc ça sera un essai de plus, peut-être écrit par quelqu'un qui est de la maison, comme on dit, mais enfin bon. Et en plus, c'est un travail énorme. Tout ce que vous avancez dans un essai géopolitique, il faut le justifier, il faut apporter les preuves. Vous dites ça, alors il faut des statistiques, des ceci, des cela. Bon, je veux dire, vous êtes effectivement sujet à la critique très facilement, ce qui est normal. Hein. Et c'est vrai que peut-être un peu par flemme, j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que ça m'avait déjà demandé beaucoup de travail sur le livre sur la Bolivie. Et je me suis dit, et c'est la voie que je poursuis actuellement, si j'essaie de faire passer mes idées d'une façon romanesque, c'est déjà beaucoup plus facile parce que j'ai beaucoup plus de liberté. Je peux dire pas tout et n'importe quoi, mais je peux exagérer certaines choses parce que c'est du roman, je fais parler des personnages et ça me permet quand même de m'exprimer d'une certaine façon sur un sujet. Donc j'ai choisi pour l'instant cette méthode d'expression. Et puis en même temps, donc j'en suis au deuxième roman, j'entame le troisième. C'est un travail d'imagination que je ne connaissais pas, parce que les deux premiers, je ne fais que raconter et analyser ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Là, c'est un travail d'imagination et qui me plaît. Au final, qui me plaît, ça me fait, c'est pas que ça me fait rêver, mais ça me fait imaginer des histoires et je trouve ça assez plaisant. À l'écriture, en tout cas, inventer un scénario, après essayer de le mettre en bon français, en bon ordre, pour que ça soit lisible, que ça soit digestif. Et j'espère que le lecteur ensuite en est satisfait. Voilà.
Ces constitutions de livres, dans leur élaboration, vous utilisez donc des pensées, des anecdotes. Est-ce que vous regroupez tout ça dans une sorte de document qui sera un référentiel pour la rédaction du livre ? En quelque sorte, est-ce que c'est un peu une certaine continuité de votre ancienne activité de policier dans cette constitution de rapport, par exemple ?
D'une certaine façon, oui, parce que lorsque vous écrivez, en tout cas c'est mon cas, j'ai des idées qui me passent par la tête à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et rapidement je les note avant que je les oublie, parce qu'avec l'âge on commence à perdre la mémoire, et après je les utilise ou je ne les utilise pas. Tout dépend de l'écriture, du contexte, ceci, cela. Et effectivement, ça, c'est pas que ça prend la tête, mais ça prend quand même beaucoup de temps dans l'esprit. Et effectivement, lorsque je travaillais en investigation, quand vous avez un dossier qui vous tient à cœur, vous y pensez constamment. C'est une énigme à résoudre. Et donc, vous y pensez. Et vous dites, mais comment on va faire ceci, comment on va faire cela? Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, effectivement, d'une certaine façon, c'est une prolongation de mon travail de recherche et d'investigation tel que je l'ai connu il y a quelques années en arrière.
Et d'ailleurs, il peut y avoir des fausses pistes qu'on peut retrouver dans l'ouvrage.
Alors là, effectivement, je dirais pas que j'ai cet avantage, mais enfin, pour moi, c'est un atout. Ayant travaillé en investigation pendant plus de 30 ans, je sais qu'une enquête n'est jamais linéaire. Vous avez des pistes à droite, à gauche, donc des fausses pistes, des choses auxquelles on croit et qui ne se déroulent pas, des solutions auxquelles on croit et qui ne aboutissent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me l'a reproché, mais j'estime que je suis plus près de la vérité, la réalité des choses, en ayant une conclusion à mes histoires qui n'est pas toujours la plus évidente et qui n'est pas toujours la plus heureuse. C'est-à-dire que les bons et les gentils ne gagnent pas toujours. Donc effectivement, ce n'est pas toujours très moral, mais dans la réalité, c'est quand même souvent comme ça. Il y a beaucoup d'affaires dans la réalité où le méchant, le malfaisant, comme on dit, il n'est pas puni comme il devrait être parce que tout simplement, soit on a mal fait notre boulot en tant que policier, on n'a pas réussi à récupérer toutes les preuves nécessaires pour qu'il soit condamné. Alors là, effectivement, on peut avoir son intime conviction. On peut être certain que cette personne est coupable, mais on n'arrive pas à le prouver. Et effectivement, le bénéfice du doute bénéficie toujours à l'accusé. Donc dans ce cas-là, cette personne-là est acquittée et échappe à la sanction qu'il devrait avoir. Donc ça, c'est quand même la réalité des choses. Et moi, je suis, pour l'avoir vécu, justement, dans certains dossiers, je suis conscient de ça. Et c'est pour voulant être proche de cette réalité... que ce soit dans le déroulement de l'enquête ou dans les conclusions de l'enquête, il y a toujours X pistes possibles et ce n'est pas toujours la plus évidente qui va aboutir. Et le méchant sera malheureusement pas toujours puni comme il se doit. Voilà. Alors ça peut décevoir certains lecteurs, Mais c'est peut-être un peu mon défaut, je veux peut-être trop coller à une réalité que j'ai connue.
Oui, c'est ça, on peut dire que c'est un peu la réalité en même temps. En dehors de ces textes, de ces romans, est-ce que l'écriture était aussi un outil pour d'autres activités? Beaucoup d'auteurs, par exemple, tenaient un journal. Est-ce que vous en tenez un qui soit un peu en quelque sorte un référentiel de vos projets futurs?
Non, pas du tout, mais je trouve que l'écriture m'apporte une nouvelle corde à mon arc dans la vie, c'est-à-dire que bon, je suis retraité, installé dans les Hautes-Alpes, je m'occupe largement d'une maison à retaper, jardinage, bricolage, tout ce qu'on veut, je n'ai pas abandonné la randonnée, les activités de nature et les voyages, mais l'écriture déjà m'a fait relire, ce que je ne faisais plus depuis des années, et puis m'a fait découvrir aussi tout un nouvel univers entre sur les salons, d'autres personnes qui éditent, qui écrivent, et me fait fréquenter de nouvelles personnes, et c'était très appréciable. Et puis ça me permet surtout aussi d'avoir une activité intellectuelle un peu, de garder la maîtrise, ou retrouver la maîtrise du français, qu'on aurait tendance à perdre, je veux dire, quand on réfléchit, on n'a plus l'occasion de réfléchir, on perd des capacités intellectuelles, et là, cette activité me permet de garder ces activités intellectuelles, et j'en suis bien content. Mais pour l'instant, je ne suis pas engagé dans d'autres activités au sein d'associations littéraires ou quoi que ce soit. Un petit détail quant au titre. Le feu de la révélation, mais les recherches que j'ai faites, même si j'ai été enfant de cœur et que j'ai une éducation religieuse, je ne connaissais pas la Bible et les textes sacrés par cœur. Et je me suis aperçu à un moment donné que le feu de la révélation était le surnom donné à la scène du buisson ardent qui se passe dans le massif du Sinaï et où Moïse, donc dans l'Ancien Testament, découvre ou
dialogue
avec Dieu qui se manifeste en mettant le feu dans un buisson. Donc ça s'appelle la scène du buisson ardent ou le feu de la révélation. Alors, dans l'ouvrage, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est un hasard que ce titre puisse correspondre avec cette scène de l'Ancien Testament. Non, en fait, le titre, je ne dévoilerai pas le secret, mais le titre est une contrepétrie. Et en fait, à l'intérieur du livre, il y a une multitude de contrepétries, parce que j'aime bien ce genre d'humour, donc à chacun de la découvrir. Et j'aime toujours, pour alléger un peu le sujet, parce que c'est quand même un sujet qui peut être un peu sérieux, voire pas triste, mais voire un peu difficile pour l'esprit. Et j'aime toujours mettre un peu de légèreté en insérant quelques doses d'humour. Et donc ça peut se faire soit par des jeux de mots, soit par des contrepétries dans ce livre. Voilà, donc je tiens à le dire, c'est un sujet sérieux, voire dramatique par endroit, par moment, mais traité avec une petite dose d'humour et de légèreté quand même.
Ce feu de la révélation, c'est aussi révélation, c'est la traduction de l'Apocalypse, le terme grec qui signifie révélation. Je pensais qu'il y avait un point commun avec cette notion. Vous, c'est plutôt avec le buisson ardent. Donc.
C'est plutôt avec le buisson ardent. Et encore, je le dis, c'est pas la signification du titre. Bon, elle est expliquée dans le corps de l'ouvrage et de l'intrigue, mais ce n'est pas le buisson ardent de Moïse. La contrepétrie elle-même. La contrepétrie elle-même, je la laisse deviner.
Oui, mis à part ces livres, vous utilisez un blog ou moyen d'échanger aussi avec...
Alors, j'ai à la fois un site Facebook et un site internet dédié à mes publications où vous pouvez découvrir les articles de presse écrits, audio ou même TV, qui figurent sur ce livre, Le Feu de la Révélation, et sur les livres précédents. Alors, je vais donner simplement les références du site internet, c'est le plus simple, www.jeff, Barbieri, auteur, tout attaché, www.incendie.com. Donc sur ce site, vous trouverez tout. Et puis, si les personnes intéressées peuvent le commander, alors soit auprès des maisons d'édition directement, c'est plus simple, hein, plutôt que de passer par Amazon, ou alors auprès de moi-même, mes coordonnées sont sur le site, vous pouvez me contacter, et je me ferai un plaisir de vous envoyer le livre avec dédicace. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ?
Alors, au départ, j'ai simplement voulu écrire mes mémoires de flic, on va dire, parce que j'ai eu la chance d'avoir une carrière, bon, je dirais pas exceptionnelle, mais enfin, on va dire, peu commune, et où j'ai eu à traiter des affaires, principalement dans le trafic de stupes à Marseille, qui étaient des affaires un peu hors du commun, et qui intéressaient à la fois mes proches et même la presse dans les années 2000. Donc au départ, j'ai voulu témoigner de ce que j'avais vécu. Voilà, donc j'ai voulu simplement écrire ça. Après, j'ai voulu témoigner de ce que j'avais vécu, qui était aussi original en Amérique du Sud, en Bolivie. Et après, tout simplement, sur la lancée, j'ai pris plaisir à écrire. Et puis sur la lancée, je me suis dit, ben, pourquoi je ne continuerais pas à écrire. Et puis ben, je suis passé au roman, qui est, comme je l'ai dit, plus facile à écrire qu'un essai géopolitique sur un sujet très sérieux. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je continue, ça me plaît, et puis ça plaît à quelques-uns de mes proches, voilà.
Une question encore, je pense à la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui a fait scandale il y a une semaine, « la police tue ». Quel est votre regard sur ce propos ?
Alors, Monsieur Mélenchon fait un peu des amalgames. Bon, il est en période électorale, il dit tout et n'importe quoi. Effectivement, il faut voir au cas par cas. Il y a eu des affaires, des faits où les policiers ont tué hors légitime défense. A priori, je pense à l'affaire du Pont-Neuf à Paris, vu que les policiers ont été mis en examen. Dans les autres cas qui ont défrayé la chronique récemment, les policiers ont été reconnus en légitime défense. Alors, il faut voir ça au cas par cas et ne pas faire de généralité. Quand un policier tue pour ne pas être tué, je trouve que c'est normal. C'est tout simplement. On n'est pas fait pour être tué. Après, on a des règles à respecter. Et effectivement, alors on peut contester le cas de la légitime défense qui est imposé aux policiers qui ne l'est pas aux gendarmes, qui ont statut militaire. Ça, c'est un autre débat. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Et je pense que M. Mélenchon, quand il dit « la police tue », il dit tout et n'importe quoi. Il ne fait pas la différence entre les cas de légitime défense et d'autres cas. Et M. Mélenchon est assez mal placé pour parler de police et de justice quand on voit qu'il a lui-même été mis en examen dans des affaires judiciaires et qu'il s'est comporté de façon assez honteuse lorsqu'on est venu perquisitionner, quand la brigade financière de Paris est venue perquisitionner dans ses locaux, lui se prétendant représentant, se considérant comme étant la République, j'ai trouvé ça assez minable de sa part. Bon, après, il intervient dans une période de campagne électorale, donc il cherche le buzz, voilà.
Vous parliez tout à l'heure de la police d'hier, celle où vous étiez présent, et celle d'aujourd'hui qui vous semble-t-il déplaît. Il y aurait quelques raisons. D'ailleurs, j'ai cru lire récemment que les policiers, effectivement, n'ont pas ces exercices de tir qui leur permettent d'acquérir aussi la manipulation d'armes. Est-ce que ça, il y a un manque de formation aussi au sein de la police et qui, par ce fait, peut produire justement certains décès ?
Alors, là aussi, il faudrait voir cas par cas. Je ne connais pas le détail de la carrière des policiers.
Mais là, je parle de globalement la formation au tir.
Mais ce sujet a depuis très longtemps été mis sur la table. Je me souviens, il y a 30 ans, on nous disait déjà effectivement qu'on n'était pas assez formés. Et effectivement, pendant un certain nombre d'années, dans les années, notamment, je me souviens très bien à Marseille, dans les années 2000, ont été mis des programmes de séances de tir, d'entraînement, ceci, cela, qui ont été bien faits, à mon sens, au niveau de la police judiciaire que j'ai connue. Hein. Moi, je suis parti de Marseille en 2009. Ça tournait bien au niveau de l'entraînement. Il y avait effectivement des séances d'entraînement plus nombreuses qu'auparavant et plus adéquates. C'est pas simplement du tir de précision. Il fallait faire s'entraîner au tir de riposte, qui est notre boulot, le cas échéant. Après, pour chaque unité, c'est différent. Alors maintenant, nous sommes en 2022. Est-ce que ça s'est dégradé dans le détail ? Je ne le sais pas. Je ne pense pas, parce que je pense que c'est quand même un domaine sur lequel l'administration a pris conscience depuis une vingtaine d'années qu'il fallait vraiment former les gens et s'astreindre avec des séances de tir. Bon, après, il faut qu'il y ait les moyens, il faut ceci, il faut cela. Mais bon, mais après, on ne peut pas toujours éviter, comme on dit, les bavures. Il y a des policiers qui, effectivement, peuvent faire des conneries sous l'effet de soit une mauvaise formation, sous le fait de qu'ils perdent leur sang-froid, ceci, cela. Effectivement, ça peut arriver et c'est très, très regrettable. Bon, effectivement, s'ils sont mieux formés, ça arrivera de moins en moins. Donc, moi, à mon sens, je pense que la formation au niveau du tir, sauf erreur de ma part, est actuellement meilleur qu'il y a 30 ans. Bon. Après, on pourra toujours reprocher, quand on est assis derrière un bureau, un tel qui doit réagir en un dixième de seconde à une situation dangereuse, on pourra toujours lui reprocher, il fallait faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Oui, c'est facile, mais quand on est devant le danger, il faut réagir au quart de tour, il faut sauver sa peau, sauver la peau de son collègue. C'est très, très, très difficile, c'est très délicat. Donc, moi, avant de condamner quelqu'un sur une telle intervention, j'attends de voir les circonstances exactes. J'ai eu deux collègues récemment qui ont été, dont l'un que je connais très bien personnellement, qui à Marseille, il y a 2 ou 3 mois, ont tué une personne dans une intervention sur Vitrolles, deux collègues de la brigade des stupes de Marseille. Fort heureusement pour eux, ils étaient en état de légitime défense, donc ils ont passé une journée ou deux journées en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, ce qui est tout à fait normal. Mais très vite, il a été établi qu'ils étaient en état de légitime défense. Bon, pourtant, la victime était quelqu'un d'une cité de trafiquants du nord de Marseille. Bon, ça ne se passait pas dans la cité. Ça aurait peut-être fait plus de bruit. Ça se passait sur Marignane. Mais enfin, ce fait n'a pas suscité de révolte dans des cités comme on aurait pu le penser. Hein. Fort heureusement. Alors, ça ne vient pas que les collègues étaient en légitime défense. Ça vient peut-être de certaines circonstances que je ne connais pas. Parce que parfois même, quand les collègues sont en légitime défense, ça n'empêche pas une cité de prendre feu par principe de vouloir manifester son mécontentement vis-à-vis de la police et vis-à-vis des autorités. Alors, je veux dire, ce sont des sujets quand même très, très délicats. Il faut se méfier de toutes les réactions hâtives. Et dans le cas de M. Mélenchon, je pense qu'il aurait mieux fait de se taire, comme dans, malheureusement, j'irais beaucoup de sujets, parce que je connais très bien l'Amérique du Sud pour y avoir vécu, y avoir travaillé. Je connais très bien la Bolivie. Donc, à chaque fois que M. Mélenchon, qui se dit être un grand copain d'Evo Morales, l'ancien président, que j'ai connu aussi, si M. Mélenchon connaissait vraiment Evo Morales, il aurait une autre opinion, il aurait une façon de s'exprimer, plutôt que par principe défendre le soi-disant président indigène des pauvres, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc M. Mélenchon, il parle parfois un peu trop vite, à mon sens. Je ne dis pas qu'il dit que des bêtises, loin de là, mais il ferait mieux de tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler.
Jean-François Barbieri, je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, je vous remercie, et puis au plaisir pour le prochain livre. Et je vous remercie encore de votre invitation. Et je salue tous les lecteurs, les auditeurs et les lecteurs potentiels.
Au revoir.
Au revoir, merci. Bloody cops, a bloody king, bloody keep it bloody clean. Bloody cheats, a bloody swine, bloody draws, a bloody line. A bloody fun and bloody games, a bloody kids in bloody blames. Nowhere to be bloody found, anywhere in Chicken Town. The bloody scene is bloody sad, the bloody news is bloody bad. The bloody weed is bloody turf, the bloody speed is bloody surf. Bloody
folks are bloody daft. Don't make me bloody laugh. Bloody hurts to look around. Everywhere in Chicken Town. Bloody train is bloody late. Your bloody way, bloody lost and bloody found. Stuck in fucking Chicken Town. Train is bloody late. The bloody waiting, bloody wait. Bloody lost and bloody found. Ducking fucking Chicken Town.